Alors, comme vous vous en doutez certainement, on va parler de Noël ce matin. Surprenant. Est-ce que vous savez où dans la Bible l'histoire de Noël est racontée? Où dans la Bible? Dans les évangiles. Dans quels évangiles? Matthieu? Luc? Ouais, exactement. Et est-ce qu'il y a encore d'autres endroits dans la Bible où il est question de... Ésaïe? Exactement. Et encore? Michée, oui. Il y a encore d'autres endroits? Enfin, moi, j'ai pensé à ces textes que vous avez nommés, là. Ésaïe, Michée, Matthieu et Luc. Et ce que je trouve, comme j'ai dit en introduction, assez incroyable, c'est que plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, sa naissance avait été annoncée. Et ça, je me dis, mais c'est juste incroyable. Ça ne peut venir que de Dieu de pouvoir parler comme ça d'événements futurs. Et en Ésaïe, il y a deux textes qui annoncent la venue de Jésus de manière très très claire. Il y a le texte que j'ai lu en introduction, en Ésaïe 7, et le texte que Elfried a lu durant la louange, Ésaïe 9. Et je me suis dit, comme la semaine dernière nous avons fêté Noël ici avec un magnifique spectacle, l'histoire racontée par les enfants, je me suis dit qu'on allait prendre un des autres récits qui parle de la naissance de Jésus. Et on va lire ce matin en Ésaïe 9, versets 1 à 6, et il n'y a qu'un S à Ésaïe, contrairement à mon PowerPoint. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrées aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Et quand on lit particulièrement le verset 5, le verset 6, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est Jésus qui est venu sur cette terre. Et je suis frappé par l'actualité de ces versets. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et on parle souvent de la lumière à Noël. D'ailleurs, on met plein de petites étoiles partout qui brillent, plein de guirlandes illuminées. Mais la véritable lumière, c'est Jésus qui est venu. Et il est venu pour apporter une joie. Et il a dit, une joie comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Alors, c'est un peu... C'est quelque chose peut-être qu'aujourd'hui qui nous parle un peu moins parce que le partage de la moisson, je ne sais pas qui d'entre vous partage la moisson. Moi, personnellement, je n'ai jamais partagé la moisson. Mais c'était une société agricole, donc tout le monde cultivait son champ. Et puis, ben, quand la moisson était là, on avait assez à manger. Peut-être qu'on pourrait remplacer aujourd'hui, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin, on pourrait dire, mais comme... comme on se réjouit quand on reçoit son 13e salaire, comme on jubile quand on reçoit une prime de fin d'année. Oui, il y en a qui l'ont reçu ou qui l'attendent. On l'espère, et oui. Et c'est vrai que quand on arrive à la fin de l'année, puis qu'on reçoit le 13e salaire, pour ceux qui ont un 13e salaire, ou quand on reçoit une prime, ben c'est agréable. Parce que tout d'un coup, il y a un mois où on a un peu plus en plus, le mois de décembre, des fois c'est aussi un mois où il y a un peu plus de sorties. Donc On est content quand il y a le 13e salaire qui arrive, quand il y a des primes qui arrivent, surtout si en plus c'était inattendu, puis tout d'un coup des fois on voit les chiffres de certains 13e salaires ou certaines primes que les gens reçoivent à la fin de l'année qui dépassent leur revenu annuel. On se dit, mais c'est génial, ils ont de quoi se réjouir, ils ont de quoi inviter leurs amis et puis faire la fête. Et je crois que la joie dont il est question là a quelque chose de cela. C'est une joie qu'on a quand on est dans l'abondance. Parce que Jésus, il est venu nous donner bien plus qu'un 13e salaire ou qu'une prime. Ce qu'il est venu nous apporter est bien plus grand que cela et on a de quoi se réjouir, on a de quoi être dans la joie. Et il est dit dans le Nouveau Testament, mais ne vous inquiétez de rien, à chaque chose, à chaque jour suffit sa peine. Regardez les oiseaux des champs, ils ne moissonnent ni ne sèment et pourtant chacun d'eux mange à sa faim et il n'y a pas un qui tombe sans que le Père qui est dans les cieux ne le sache. Oui, Dieu pourvoit à nos besoins, jour après jour, semaine après semaine, après année, année après année, et on peut vraiment avoir cette joie dont il est question en Ésaïe. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bateau de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire de Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrées aux flammes pour être réduits en cendres. Et ça aussi, c'est une belle promesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'année, je crois que c'était au début de cette année, il y a eu une nouvelle assez fracassante, c'est que la Corée du Nord parlait d'arrêter de produire des armes nucléaires et même de détruire celles qu'elle avait déjà. Vous vous souvenez ? On a tous entendu parler, tout le monde s'est réjoui en se disant « Ah mais, c'est génial, ce pays va peut-être abandonner ses armes. » Et c'est de ça qu'il est question de dire « Mais, il n'y aura plus besoin, il y aura une paix qui sera là, qui sera durable, il n'y aura plus besoin d'avoir des armes pour la guerre, il n'y aura plus besoin d'avoir des habits souillés par le sang parce qu'on se sera battu, tout ça on pourra détruire, parce qu'il y aura un règne de paix qui va commencer. » Et ça on se réjouit aussi, alors la Corée du Nord, on ne sait pas trop où c'en est aujourd'hui, on n'en entend plus beaucoup parler. Mais quand il y a eu cet espoir-là de se dire, mais oui, il y a une paix durable, on attend une paix durable, on aspire à une paix durable, et Jésus est venu la rendre possible. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Et Ésaïe continue en prophétisant en disant, mais il y a cet enfant qui va naître et c'est lui qui apportera ce règne-là. Et les titres qu'il lui donne, merveilleux conseiller. On a un conseiller qui est merveilleux. Je ne sais pas si ça vous arrive dans votre vie d'avoir besoin de conseils. Des fois, on a des situations, bonnes ou moins bonnes, où on a des choix à prendre, où on a des choses à faire, et ce n'est pas facile de prendre la bonne décision. Et dans ces moments-là, c'est tellement important d'avoir des bonnes personnes pour nous conseiller. Jésus peut nous conseiller dans ces situations-là. Il est le merveilleux conseiller. En 1 Corinthiens 1, verset 30, il est dit que Jésus est devenu notre sagesse. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Dieu puissant. On l'a lu au début du culte. Emmanuel, Dieu est avec nous, Jésus est ce Dieu puissant, il est le Dieu fort, il est le Dieu qui est capable de nous délivrer. Et non seulement c'est un excellent conseiller, mais en plus, il a la puissance nécessaire pour accomplir son conseil. Père, Père éternel. Là, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Quand il est question ici du Père éternel, ça ne veut pas dire que Jésus est le Père. Il n'y a pas de... on n'est pas dans un uniniatarisme, un Dieu unique qui n'aurait aucune distinction. On a un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors je souligne ce qui paraît qu'il y a certains mouvements qu'on appelle unitariens, notamment aux États-Unis, le pentecôtisme unitarien, qui se passe sur ce verset pour dire mais il n'y a pas de distinction entre Jésus et le Père, et ils utilisent ce verset pour le dire. Alors je vois quelqu'un froncer des sourcils. Oui, c'est étrange. Alors je profite pour ouvrir une petite parenthèse, parce qu'on peut très vite construire une théologie, des concepts sur un seul verset. Il faut toujours se poser la question, mais est-ce qu'il y a d'autres appuis bibliques pour soutenir cela? Et il y a un principe, quand on lit la Bible, de se dire, mais les textes les plus obscurs sont éclairés par ceux qui sont plus évidents, plus clairs. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup d'autres textes qui parlent justement de Jésus envoyé par le Père, quand il y a Jésus qui prie le Père, et qui soutiennent qu'il y a quand même une différence entre le Père et Jésus. Et en plus, dans la manière dont Ésaïe utilise le mot Père, dans l'Ancien Testament, Père est très rarement utilisé pour parler de Dieu. Mais on le voit que ça peut être utilisé pour parler, en tout cas Ésaïe l'utilise comme ça, d'un roi qui gouverne bien, de quelqu'un qui prend soin des autres. Et donc, probablement, quand là il est question de Père éternel, il y a deux choses qu'on peut tirer, c'est d'une part qu'il va régner comme un père, comme quelqu'un qui prend soin de son peuple, et non pas comme un despote, et qu'il va le faire toujours comme ça. Ça c'est une chose qu'on peut tirer, et puis l'autre chose c'est de se dire, mais son règne, Père éternel, Père à jamais, traduisent certains, c'est quelque chose qui commençait déjà avant, il y a quelque chose dans l'éternité et pas juste qui commence avec la naissance de Jésus. Prince de la paix. Il va régner pour donner la paix. Et une question une chose qui m'a frappé en préparant ce matin, c'est de voir que ce texte d'Ésaïe 9 est cité en Matthieu 4. Alors on va ouvrir en Matthieu 4 pour voir ce qu'il est dit. Alors Matthieu 4, versets 13 et 17. Ça se passe après la tentation de Jésus dans le désert. Jésus se fait tenter et juste après on peut lire ceci. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Vous reconnaissez? C'est le texte qu'on vient de lire en Ésaïe. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors pourquoi est-ce que ça m'a surpris de lire ce texte ici? Parce que moi, je l'attendais à la naissance de Jésus. Enfin, je ne sais pas vous, quand on lit Ésaïe 9, puis qu'on voit un enfant vous a été donné, enfin, je me dis, naissance de Jésus, c'est là qu'on va citer Ésaïe à propos. Et là, il est question de ce texte, juste avant le début du ministère de Jésus, quand il va commencer à avoir son ministère public. Et je trouve ça assez surprenant. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Matthieu cite ce texte ici? Et je pense que c'est quand même en lien avec ce qui suit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et cette question de ce peuple qui marche dans les ténèbres et qui voit une grande lumière. Cette lumière est tellement grande, comment ça se fait qu'il n'y a pas tout le monde qui l'ait vu, qui soit accouru vers Jésus, qui soit allé amener tout son or, tout son argent, qui soit allé consacrer leur vie à Jésus? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas tout le monde entier, déjà à cette époque, qui ait accouru vers lui? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, avec une lumière qui resplendit de la sorte, eh ben, il n'y a pas tout le monde qui accourt aux pieds de Jésus, qui disent « Mais oui, c'est le Dieu éternel, c'est le prince de la paix !» Et il me semble qu'à cette étape indispensable, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Et c'est vrai, quand on parle de Noël, on parle souvent de Noël comme quelque chose de joyeux, comme quelque chose d'assez léger, comme quelque chose qui brille. Mais le message de Noël n'est pas déconnecté du reste de l'évangile. Bien sûr que la repentance a quelque chose à faire, même à Noël. Repentez-vous. Et la question de la repentance est présente un peu dans toute la Bible, mais peut-être particulièrement au début du ministère de Jésus. Et on peut lire un autre texte en Luc 1, versets 39 à 44. C'est juste après l'annonce que l'ange fait à Marie qu'elle va être enceinte et qu'elle donnera naissance à Jésus. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Parce qu'Élisabeth, il y avait aussi eu un miracle. Élisabeth, c'était une vieille femme. Son mari était un vieil homme et ils n'avaient pas d'enfant. Puis Zacharie, son mari, était prêtre au temple. Puis un jour, il entre dans le temple pour aller officier, et puis il y a un ange qui vient le voir et qui lui dit « Ta femme va être enceinte et le fils qui va en être sera un prophète. » Et tout le peuple est en train d'attendre à l'extérieur du temple, et puis il se dit « Il fait drôlement long aujourd'hui, le prêtre. » Et voilà, et Marie, en apprenant qu'Élisabeth est enceinte, eh bien elle se dit, je vais aller la saluer. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Et cet enfant, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste et Jésus, il y a quand même un lien, c'est que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Je propose qu'on passe encore à la slide suivante, qu'on va dire encore un texte dans Luc. Alors, quel était le message de Jean-Baptiste ? La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et il alla dans tout le pays et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, c'est le pardon des péchés. Et là, on retrouve de nouveau, il prêche un baptême de repentance. « Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. » J'aime bien cette image de ce qui est tortueux sera redressé, les chemins raboteux seront aplanis. Je trouve que c'est très parlant. Vous savez, des fois, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé avec un fil de fer à devoir retordre. Ce n'est pas facile. On n'y arrive pas. Ou bien quand vous étiez à l'école, je ne sais pas si vous aviez des règles en métal, ou les réglettes au travail, peut-être vous faites ça aussi. Puis d'un coup, hop, elle se plie. On essaie de la remettre droite, puis on n'arrive jamais. Parce que c'est... Mais Dieu, il peut. Ce qui est tortueux, il arrive à le redresser. Et il va le faire. Ce n'est pas pratique de travailler avec une règle qui n'est pas droite. Puis c'est une image qui est utilisée pour dire, mais la règle, d'une certaine manière, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est notre cœur. Et le cœur de l'homme peut être des fois vachement tordu. Puis là aussi, quand on essaie de redresser le cœur de quelqu'un, ben, on arrive, et puis quand on fait comme ça, ben, plutôt que ce soit la partie pliée qui se redresse, c'est à côté que ça plie. Puis c'est la même chose, le chemin... les chemins raboteux seront aplanis. Quand on va le soir ou la nuit ou au début du jour, puis qu'on marche, puis que le chemin il n'est pas plat, on se casse la figure. Je connais des gens qui sont pétés la cheville comme ça. Ils couraient, puis le chemin il n'était pas bien droit, puis hop, la racine, et puis voilà, ça n'a pas joué. Et c'est comme ça, quand les choses ne sont pas droites, ben, ça crée des problèmes, on se casse la gueule, on se casse la figure. Et on a besoin que ce chemin soit aplani devant nous. Et c'est ce que Dieu il veut faire. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Race de vipères. Je trouve que c'est une expression dans la Bible qui est, de nouveau, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui est aussi très parlante. Race de vipères. Qu'est-ce qu'on fait avec une vipère? On se fait mordre et on crève. Donc quand Jean-Baptiste dit race de vipères, il est en train de dire, mais vous êtes en train d'empoisonner tout le monde. Il n'y a pas pire comme animal. Il n'y a pas pire qu'une vipère. Surtout dans la culture biblique, quand on sait que c'est un serpent qui a tenté Adam et Ève pour les faire pécher, les détourner de l'Éternel. Donc quand Jean-Baptiste dit la race de vipère, ben en français on utiliserait des mots beaucoup plus vulgaires, mais ça veut dire la même chose. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et il ne suffit pas. Il ne suffit pas que vous soyez des bons juifs, hein, que vous puissiez retracer la lignée jusqu'à Abraham. Hein. Ce n'est pas ça qui fait de vous un vrai juif. Et on pourrait dire aujourd'hui, il ne suffit pas que vous soyez né dans une famille chrétienne, il ne suffit pas que vous veniez tous les dimanches à l'église, il ne suffit pas d'aller à Noël à l'église pour que la question soit réglée. Produisez du fruit digne de la repentance. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Ben, c'est quand même une question qu'on se pose quand on se dit, « Mais hein, l'arbre, il sera coupé et puis jeté au feu de nouveau. » Je ne sais pas s'il y en a encore qui chauffent au bois chez vous, mais à la maison. Mais quand on coupe un arbre pour le jeter au feu, ben, c'est qu'on veut le détruire. On se dit, mais si on ne produit pas des fruits dignes de la repentance, ben c'est ce qui va se passer avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est des fruits dignes de repentance? Il leur répondit, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et la réponse de Jean-Baptiste est extrêmement claire. Vous avez deux vestes, pardonnez-en une. Marchez droitement, n'essayez pas de vous en mettre plein les poches. N'abusez pas de votre prochain, soyez généreux envers les pauvres. Et il n'est pas question de... Il dit pas, ah ben tu as une veste, donne-la à quelqu'un d'autre. Non, si tu as deux vestes, il faut quand même que tu puisses continuer à avoir chaud, il faut quand même que tu aies le nécessaire pour vivre. Mais le surplus, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Tu as des responsabilités, les publicains, ils collectaient les impôts pour les Romains. Tu as des responsabilités. Ben, agis droitement. Prends soin de ceux qui sont en dessous de toi. Prends soin de ceux envers qui tu exerces ton autorité. Bien sûr, il y a un impôt qui est là, qui doit être récolté. Il faut le faire. Mais il n'y a pas lieu d'augmenter cet impôt pour pouvoir en prendre une partie. Il n'y a pas lieu de détourner de l'argent. Il n'y a pas lieu d'écraser l'autre pour par peur qu'il prenne notre poste, d'écraser l'autre pour simplement par plaisir. Et ça nous remet en question, surtout en Suisse où on a quand même bien de quoi vivre, de donner, d'être généreux. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie, n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Alors la repentance, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est reconnaître que on a besoin de Dieu et que ce qu'il nous donne, on peut le partager. C'est agir avec justice, c'est agir avec droiture. Et quand Jésus a commencé son ministère, il prêchait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché, car le royaume de Dieu est proche. » Jean a été envoyé pour préparer le chemin de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit ? « Repentez-vous. » Et qu'une chose soit claire, ce n'est pas la repentance elle-même qui permet d'obtenir le salut. Si Jésus-Christ n'était pas venu, on aurait beau se repentir tout ce qu'on veut, ça ne changerait rien. On ne serait pas pardonné. Mais la repentance, c'est le chemin qui nous prépare à accueillir la venue de Jésus. Jean a été envoyé pour qu'on puisse accepter Jésus-Christ. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le but, ce n'est pas la repentance. Le but, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est amené par Jésus-Christ. Et c'est absolument essentiel de s'en souvenir, parce que cela nous permet de nous repentir. Parce que quand on voit avec quelle bonté Dieu a agi envers nous, on reconnaît qu'on est misérable, on reconnaît qu'on a besoin d'aide, on reconnaît qu'on a fait des choses qui sont fausses dans notre vie, qu'on a besoin de demander pardon. Et puis, Jean a dit, mais lui vous baptisera de son esprit. Puis quand on est touché par son esprit, quand on reçoit Jésus dans notre cœur, quand on confesse qu'il est Seigneur, on est tellement rempli qu'on peut donner avec largesse, qu'on peut donner avec justice. Mais s'il n'y a pas ça qui se passe, notre repentance, elle sera sèche. On a besoin de Jésus-Christ. Le but, ce n'est pas la repentance. Le but, c'est d'accueillir Jésus. C'est d'accueillir, comme un petit enfant, ce grand Messie. Et lui, il n'a pas hésité. Il était Dieu éternel, le Dieu fort. Il avait tout ce qu'il voulait, tout ce dont il avait besoin. Et il a tout quitté pour venir à ta rencontre, à ma rencontre. Et face à un amour comme ça, on est bouleversé. Je me dis, mais je ne méritais pas. Je ne le mérite toujours pas. Et quand je vois ça, je me dis, mais Seigneur, pardon. Parce que toi, de toute éternité, tu m'as aimé comme ça. Et moi, j'ai menti. Je me suis mis en colère. J'ai volé. J'ai manqué de générosité. J'ai voulu abuser de mon autorité. Je n'ai pas respecté mes supérieurs. Et pourtant, malgré cela, tu n'as pas hésité. Tu es venu pour que je sois réconcilié avec toi. Tu es venu pour que je sois réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est absolument essentiel pour accueillir Jésus. Parce que si on l'accueille en disant « Oh, mais c'est normal après tout, c'est le rôle de Dieu de pardonner. Il a créé le monde pour ça. » Ou bien en se disant « Ah, mais de toute façon, il est déjà venu. » Mais on va passer à côté de cette joie de Noël. On va passer à côté de cette paix. Puis Noël, ça va juste être un jour où on va mettre des jolies lumières partout, où on va courir aussi à droite à gauche, puis c'est tout. Puis après, ben, on va passer à la nouvelle année, et puis Noël sera derrière. Puis on n'aura pas vraiment accueilli Jésus, il n'y aura pas eu de changement. Mais si on accueille Jésus en se disant, mais vraiment, Seigneur, j'ai besoin de toi, ben là, il y a un vrai changement qui se produit. Là, Dieu peut, on peut accueillir Dieu dans notre cœur. Là, Dieu peut œuvrer en nous, parce qu'on lui laisse, on lui dit, mais on a besoin de toi. Alors, Dieu, il nous aime, il a envie de nous transformer. Et ce qui sera tortué en nous, il va le redresser. Les pierres qui sont sur notre chemin, qui nous font trébucher, il va les enlever. Il va nous permettre de marcher droitement. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile, d'accepter de dire, mais Seigneur, sans toi, je peux rien. Seigneur, j'ai besoin de toi, je me repens. Et je crois que c'est pour ça qu'à Noël, peut-être ça ressort encore plus, parce que soit on y va vers Jésus, puis on se dit, mais Seigneur, je me repens, soit moi, on le rejette. Et il y a certaines choses qui sont mises en avant. Si on ne l'accepte pas comme ça, comment est-ce qu'on peut accepter cette lumière ?
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé.
Des fois, je me dis, mais quand je lis Ésaïe, que je vois cette promesse de cette lumière qui brille dans les ténèbres, quand je vois cette promesse de paix, des fois, je me dis, mais est-ce qu'Ésaïe, il ne s'est pas trompé ? Parce que Jésus, il est venu. Je l'ai accueilli dans mon cœur, il y en a d'autres qui l'ont accueilli, mais des fois, j'ai l'impression que les choses, elles ne changent pas. Alors, comment est-ce que Ésaïe peut annoncer tout ça ? Puis en plus, ça suit le début avec la naissance de Jésus, il y a un seul bloc. Et des fois, j'ai l'impression que dans les prophètes, ils avaient une vision de ce qui allait se passer dans l'avenir, mais ils n'avaient pas forcément une vision très précise du timing dans lequel ça allait arriver. Certains parlent de ça comme du télescopage. C'est comme quand vous aimez marcher en montagne, qui c'est qui a déjà fait de la randonnée en montagne ? Ouais. Beaucoup de monde. Hein. Des fois, on va en montagne, puis on veut monter sur le sommet, puis on voit le sommet vers lequel on veut aller, puis on se dit, on y est bientôt. Puis on arrive en haut du sommet, puis on se dit, ah non, en fait, c'était juste la petite colline qui était avant le suivant. Puis on continue, on redescend un petit peu, parce qu'il faut bien redescendre pour monter. Hein. On redescend un petit peu, on remonte, on arrive en haut, puis le sommet, il est encore devant nous. Et des fois, il y a une chose qui en cache une autre. Et quand on est en bas, on a l'impression que les sommets ils suivent, et puis qu'on va en faire un, puis 10 minutes après, on sera au suivant, puis que 20 minutes après, on sera celui qui est tout en haut. Parce qu'on les voit les uns derrière les autres, il y a celui-là, ensuite il y a celui-là, ensuite il y a celui-là, puis on ne voit pas qu'entre deux, il y a le chemin qui fait des zigzags, que ça descend, que ça monte. Des fois, j'ai l'impression qu'avec les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était un peu la même chose. Ils voyaient qu'avec Christ qui allait venir, qu'elle allait avoir un royaume de paix, ils voyaient que la Vierge allait être enceinte, ils voyaient qu'elle avait une lumière qui allait briller, et ils mettent tout ça ensemble. Puis ben, nous, qui vivons après eux, ben, on a vu différents sommets. Et ce qui s'est passé avec Christ quand il est venu sur terre, quand il est venu pour mourir sur cette croix, c'est vraiment le début du règne de Dieu. C'est le début de la fin des temps. Et cette paix qu'Ésaïe a prophétisée est absolument vraie. Et les guerres qui sont autour de nous ne doivent pas nous troubler. Cette paix est possible. Parce que elle a déjà commencé et un jour, Jésus reviendra. Et là, ce qu'on vit déjà nous-mêmes, dans notre cœur, avec Dieu, parfois avec nos frères et sœurs, le plus souvent possible, on l'espère. Ben, il y a un jour, Christ va venir régner. Et son règne sera un règne de paix. Et puis les épées seront fondues pour en faire des charrues. Et puis, les armes nucléaires, il n'y en aura plus. Il n'y aura même plus d'armes du tout sur cette terre, parce qu'on n'en aura plus besoin. Et c'est vers là qu'on est en train de se diriger, on est en train de marcher dans cette direction. Et on a le choix de se repentir, reconnaître nos problèmes, d'accepter Jésus-Christ et d'entrer dans ce royaume éternel. Je vais prier. Seigneur, quelle joie de savoir que tu es venu jusqu'à nous pour nous annoncer ton royaume. Seigneur, quand on voit de quel amour tu nous as aimés, un amour de toute éternité, quand tu façonnais la terre, tu pensais déjà à moi. Eh bien Seigneur, comment ne pas être reconnaissant et comment ne pas nous repentir, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne suis pas digne de t'accepter, je ne suis même pas digne de te voir, de te connaître, de délier les lacets de tes souliers. Et Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, de voir ton amour, ton de bonté, ça me touche profondément. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi parce que je ne veux pas que cette bonté, que cette paix, que cette joie, elle reste extérieure à ma vie. Mais j'ai besoin que tu viennes me transformer. Et mon cœur est tortueux, Seigneur, et je ne peux rien y faire. J'ai besoin que tu viennes redresser ce qui est tordu en moi. J'ai besoin que tu viennes aplanir mon sentier. Seigneur, alors que nous fêtons Noël, que nous approchons de ce souvenir que tu es venu sur terre, nous aimerions t'accueillir avec reconnaissance, avec repentance et reconnaissance. Parce que nous savons que tu es venu pour nous donner une grande joie, que tu es venu pour nous donner une grande paix, que tu es venu pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et nous attendons ardemment ton retour, nous attendons ardemment de te voir face à face et que ton royaume devienne manifeste sur toute la terre. Amen.